Le journal Marion Lourd. Bonjour Marion.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un double cocorico. Concours de l'Eurovision. Ce soir, notre représentante s'appelle Barbara Pravi. Et pour une fois, la France a ses chances. Et pour la France qui gagne, à coup sûr, parier sur le rugby. La Rochelle affronte Toulouse ce soir en finale de la Coupe d'Europe. On en parle dans la page sport à la fin de ce journal. Dans ce journal, encore premier week-end vraiment déconfiné en France. Les commerçants espèrent voir revenir les clients, mais ils s'inquiètent. L'ordre du mérite pour un jeune ingénieur bras armé de la campagne vaccinale. C'est Guillaume Rosier, inventeur des sites VitmaDose et Covid Tracker. À suivre aussi une ancienne ministre du Travail avec les syndicats contre la réforme de l'assurance chômage. C'est Muriel Pénicaud, votre invitée à 8h20, Pierre.
Oui, Muriel Pénicaud qui publie un livre aux éditions de l'Observatoire, Pousser les murs. Elle raconte sa carrière dans de hautes fonctions dans le secteur privé et aussi ses 3 ans au ministère du Travail de 2017 à 2020. Elle sera avec nous donc à 8h20.
Et puis le lockdown, le babysitting, le coworking, persona non grata en Italie, les anglicismes envahissent la péninsule. Pour les combattre, les Italiens réclament une loi.
France Inter.
C'est une victoire que les moins de 44 ans ne peuvent pas connaître. Le dernier triomphe de la France à l'Eurovision remonte à 1977 avec Marie Myriam. Mais voilà, l'espoir, semble-t-il, redevient permis. Il porte un nom, Barbara Pravi, notre représentante au concours international de la chanson. Elle a 28 ans, s'inscrit dans la tradition de la chanson française et chante le titre « Voilà ». Rencontre avec Sébastien Baer à Rotterdam, aux Pays-Bas, où se tient la finale ce soir.
Depuis son arrivée à Rotterdam, Barbara Pravi n'a qu'une idée, monter sur scène, faire entendre sa voix puissante, révéler son style rétro, si souvent comparé à celui de Piaf.
Pour moi, c'est 9 mois de travail, du stress, de la joie, de l'euphorie, de la peur, j'ai envie d'y aller.
La mise en scène est très sobre, volontairement.
Il y a 4 plans de caméra, 3 lumières, un petit peu de fumée. C'est comme si je murmurais à l'oreille de 200 millions de téléspectateurs, en fait.
Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si. Mise à nu, j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence.
Les parieurs donnent Barbara Pravi dans le top 3 avec un titre chanté entièrement en français.
Ce que ça m'envoie comme indicateur, c'est que les gens qui ne parlent pas le français comprennent quelque chose de cette chanson. Et je crois que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, ce qui les touche, c'est l'émotion qu'il y a dedans. Et je trouve ça fou.
Alors, une victoire pour celle qui est restée si longtemps dans l'ombre, pourquoi pas? Barbara Pravi commence tout juste à l'envisager.
Potentiellement, je m'évanouis. Je me dis, mais mon Dieu, ça veut dire que j'aurais peut-être la chance de faire des concerts à l'international alors qu'il n'y a pas 6 mois. J'avais même pas de concert prévu en France. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou.
Un succès offrirait à Barbara Pravi un doublé inédit, puisque c'est elle qui a composé la chanson de la Française Valentina, gagnante de l'Eurovision Junior en novembre dernier. À Rotterdam, Sébastien Baer, France Inter.
L'Eurovision ce soir devant 3500 spectateurs testés au coronavirus ou sur votre télé 21h sur France 2.
Marion, en France, c'est le premier week-end déconfiné pour les lieux culturels, les cafés et les commerces.
Affluence attendue, espérée en tout cas, après un mois de fermeture pour les boutiques dites non essentielles et même plus pour les grands centres commerciaux. Certains magasins seront même en activité dimanche jusqu'à fin juin. C'est le cas dans le Cher, la Haute-Vienne, le Lot, l'Oise, les Hauts-de-Seine ou le Calvados. Maxime Deps, après des mois d'ouverture et fermeture, les patrons espèrent rattraper le chiffre d'affaires perdu.
Ils ont vu les clients revenir, espèrent une grosse affluence ce week-end, mais rien n'est moins sûr pour Francis Palombi. La priorité sera sans doute ailleurs, il représente les petits commerces indépendants.
Les gens ont envie d'aller à la mer, ont envie d'aller se promener ou ont envie de retrouver leur famille, c'est vrai.
Pourvu quand même que les affaires soient bonnes.
Déjà que nous sommes très affectés et le Covid a déclenché une véritable concurrence déloyale de la part des pure player, il faut s'accrocher.
S'accrocher et compter sur le maintien des aides le plus longtemps possible, déjà qu'il y a selon lui des trous dans la raquette, sur la prise en charge notamment des stocks d'invendus.
Si vous avez un magasin et si vous en avez 5, vous touchez la même chose, 80% du fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros. Alors que quand vous avez 5 stocks, c'est différent que d'avoir un stock.
Bercy répond que tout le monde est normalement couvert, mais qu'il est parfois difficile de doubler les aides. Francis Palombi entend, mais ajoute à la longue liste de ses souhaits le report des prochains solde, impossible sinon de rentrer dans ses frais.
Les soldes au 23 juin, nous ne pouvons pas les assumer aussitôt. C'est pas possible. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas.
Au cabinet d'Alain Grisé, en charge des TPE-PME, on dit avoir entendu l'appel. Les soldes seront-ils une nouvelle fois reportés? Réponse promise d'ici la fin du mois.
Les gérants de boîtes de nuit, eux, dénoncent une injustice. Pas de reprise du service au 30 juin prochain. Décision du Conseil d'État hier soir. Les patrons n'excluent pas d'autres recours en justice. Covid et conséquences pour les entreprises. Alain Griset, le ministre délégué au PME, est justement invité dans N'arrête pas l'écho autour de 10h moins le quart sur France Inter. Et pour mieux déconfiner, vacciner, 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 c'était le mot d'ordre du gouvernement. Et lui est un des bras armés de cette campagne. L'ingénieur Guillaume Rosier, 25 ans seulement, vient d'être fait chevalier de l'ordre du mérite. C'est lui qui a créé, entre autres, le site internet Vite ma dose, qui permet de trouver des rendez-vous de vaccination, mais aussi Covid Tracker, qui intègre les données clés sur l'épidémie. En décembre dernier, il racontait son succès inattendu à France Inter.
Au tout début, c'était pas Covid Tracker, c'était une page internet à mon nom avec une image, un graphique, c'est tout. C'était très artisanal et donc je m'attendais à ce qu'il y ait 3 vues, 5 vues, 10 vues maximum, c'est-à-dire mes amis, ma famille et moi-même. Et puis au bout d'une semaine, j'ai enregistré 20 000 vues, ce qui était pour moi absolument considérable. Et donc ensuite, semaine après semaine, mois après mois, j'ai amélioré le site et j'ai rajouté plus de graphiques, plus de visualisations de données, plus de statistiques. C'est devenu Covid Tracker. Donc ensuite, la popularité a augmenté au fur et à mesure des semaines et des mois. Aujourd'hui, il y a des millions de vues chaque mois sur le site. Et puis je partage aussi beaucoup les analyses sur Twitter. Jamais j'aurais imaginé un jour avoir 20 000 abonnés et puis surtout avoir 20 000 abonnés en partageant des graphiques. Moi, j'imaginais que c'était quelque chose de très mathématique, de très austère. Donc j'imaginais pas que les gens seraient intéressés par des graphiques et des statistiques sur une épidémie.
Guillaume Rosier avec Delphine Evenou en décembre dernier sur Intervaccination accélérée dès ce week-end pour tout un quartier de Bordeaux, celui de Bacalan dans le nord de la ville. Un foyer épidémique d'un nouveau variant a été détecté, jusqu'ici rarement observé. C'est une dérive du variant anglais, il serait plus contagieux. Là, c'est le variant indien qui inquiète. L'Allemagne impose une quarantaine de 2 semaines à tous les voyageurs venus de Grande-Bretagne, même en cas de test négatif. Près de 3000 porteurs du variant indien sont identifiés au Royaume-Uni.
À l'étranger encore, deuxième jour de cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens.
Trêve respectée pour l'instant, l'aide humanitaire s'organise. Les premières discussions diplomatiques ont lieu, coup de fil entre le secrétaire d'État américain Blinken et le président palestinien Abbas la nuit dernière. Nous serons à Gaza dans le journal de 9h sur Inter. En bref, encore la défense du géant Apple, accusé d'abus de position dominante par l'éditeur du jeu Fortnite. Devant le juge américain, le patron de la marque à la pomme assure qu'un système plus ouvert pour son magasin d'applications App Store deviendrait, je cite, un grand bazar. Nous ne pourrions plus garantir la protection de la confidentialité et la sécurité, assure Tim Cook. Après 3 semaines de débat, le procès doit se conclure lundi. Au chapitre économique, encore en France, un soutien inattendu pour les syndicats opposés à la réforme de l'assurance chômage. Celui de l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud, invité de France Inter dans quelques minutes. Elle doute du calendrier d'application de ces mesures. Le 1er juillet prochain, les mesures doivent réduire l'allocation d'1 150 000 demandeurs d'emploi de 17% en moyenne. Pas le moment, en pleine crise sanitaire, estime Muriel Pénicaud. Coup de griffe, guère apprécié rue de Grenelle, Hélène Philly.
Quand on la questionne sur le sujet, Elisabeth Borne rappelle que ce n'est pas elle qui est à l'origine de la réforme et renvoie sa prédécesseure à ses responsabilités. « Je n'aurais pas porté cette réforme telle qu'elle a été conçue au départ », assène d'ailleurs l'actuel ministre. « Nous l'avons adaptée », dit-elle. « Nous avons même travaillé à la mise en place d'un plancher d'indemnisation minimale bien avant la censure du Conseil d'État. Ce plancher qui permet de réduire les écarts entre les droits des chômeurs. Autrement dit, dès son arrivée, Elisabeth Borne dit avoir repéré un problème. Si elle réplique aujourd'hui, c'est aussi que ce n'est pas la première personne de l'ancienne équipe qui doute publiquement de l'opportunité de poursuivre la réforme. L'ancien directeur de cabinet du ministère, Antoine Fouché, a lancé les hostilités début mars. Dans les efforts légitimes à demander à la France dans le monde post-Covid, pourquoi commencer par les chômeurs, s'était-il interrogé. La réforme corrigée est la bonne, soutient aujourd'hui la ministre. Ce sera au Conseil d'État de trancher.
Le 25 juillet 2019, il avait percuté mortellement en voiture sa femme qu'il n'avait plus le droit d'approcher. L'auteur du féminicide de Vénissieux vient d'être condamné par la cour d'assises du Rhône. 25 ans de réclusion, peine assortie d'une obligation de soins. Eux sont condamnés à 6 et 8 mois de prison avec sursis. Les pêcheurs opposés au parc éolien en baie de Saint-Brieuc ont reconnu les violences et menaces de mort à l'encontre des gendarmes et vigiles du chantier à Erquy. C'était il y a une semaine. Et puis Dante, père de la langue italienne, mort il y a tout juste 700 ans, doit se retourner dans sa tombe. La péninsule est submergée par les anglicismes. C'est même devenu une affaire politique à Rome pour Inter, Bruce de Guelzin.
Deux fois en un peu plus d'un mois, Mario Draghi s'est arrêté en plein discours.
Pour ceux qui ont une activité qui ne permet pas le télétravail, nous proposons une contribution babysitting. Je me demande pourquoi on doit utiliser tous ces mots anglais.
Lui qui n'a parlé qu'anglais à la Banque Centrale Européenne s'étonne des smart working, mais aussi governance ou encore computer et même lockdown pour confinement. Mais cela sonne mieux pour les plus jeunes, comme Lorenzo, 27 ans, il parle 5 langues.
Aujourd'hui, entre jeunes, on voyage, on travaille en Espagne, en France, et on ne parle pas italien, on parle tout de suite anglais parce que c'est la langue que la majorité des gens connaissent. C'est plutôt par facilité, je pense.
Les plus jeunes ne s'inquiètent pas pour leur propre langue. Le linguiste Antonio Zoppetti beaucoup plus.
En
1990, il y avait environ 1700 anglicismes. En 2021, nous en sommes à 4000. Nous avons apporté 2300 mots anglais qui désignent tout ce qui est nouveau. 50% des néologismes sont des mots anglais.
Antonio Zoppetti a présenté une pétition au Parlement pour obtenir une loi de défense de la langue italienne, mais aucun parlementaire ne s'en est pour l'instant saisi. Rome, Bruce de Guelzin, France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 8h11 et c'est l'heure des sports.
Les sports, donc. Victoire assurée pour les Français, finale de Coupe d'Europe de rugby 100% française cet après-midi, même si elle se joue à Twickenham, outre Manche. Stade toulousain contre Stade Rochelais, les supporters n'ont pas pu suivre pour cause de restrictions sanitaires, mais les Français du Royaume-Uni seront au rendez-vous. Richard Place, correspondant de France Inter à Londres, les a rencontrés.
Des maillots du Stade Rochelais, Julien en a accroché au mur de sa colocation, pas loin de l'aéroport de Gatwick. Le jeune steward n'a pas hésité une seconde quand il a su que la finale se jouerait à Twickenham. Il s'est précipité pour prendre sa place. Depuis, il en parle avec sa famille et ses amis jaloux à La Rochelle.
Il y en a beaucoup qui m'envient, mon père qui est Rochelais aussi. Je vais en profiter un maximum et représenter les Rochelais au maximum. Il faut être derrière nos joueurs, être là à l'arrivée du bus, leur montrer qu'il y a des Rochelais de partout et qu'on sera toujours derrière eux, peu importe ce qui se passe.
Vincent lui a retrouvé son amour de jeunesse, le Stade toulousain, depuis que son fils de 11 ans partage sa passion. La flamme s'est rallumée pour ces Londoniens installés dans le nord de la capitale anglaise depuis 25 ans. Vincent a grandi à Toulouse, sa famille vit encore à Colomiers. Il se réjouit de retrouver son équipe fétiche.
Je ne suis pas retourné dans un stade depuis plus d'un an. Ça va être bien de retrouver cette ambiance, même si il y aura que 10 000 personnes et on risque d'être un peu dispersé. Mais j'ai toujours suivi le Stade toulousain et c'est surtout pour ça que j'y vais, quoi. C'est excitant, quoi.
Il était à Twickenham il y a 17 ans pour la défaite de Toulouse à la dernière minute contre les Anglais des Wasps. Cette fois, il n'y aura pas un stade plein et une ambiance de finale. Mais si le résultat est différent, ça lui convient. Londres, Richard Place, France Inter.
Coup d'envoi 17h45, victoire française. Encore Montpellier remporte la petite Coupe d'Europe 18-17 hier face aux Britanniques de Leicester. Combatif aussi, ce matin, notre esprit sport, il est question de karaté. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Le championnat d'Europe se dispute en ce moment en Croatie et aujourd'hui, la numéro 1 française, Alexandra Ferrace, peut décrocher une médaille de bronze.
Et c'est un rendez-vous important car la jeune femme de 28 ans, elle est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Et oui, cette année, pour la première fois, le karaté figure au programme, sauf qu'il ne sera plus à ce programme dès Paris 2024. Il y a donc un côté étoile filante, pas forcément évident à gérer pour les sportifs.
Au début, ça met une pression. Ça met une pression où on se dit il faut y être et on n'a pas le choix. Et donc du coup, c'est vrai que dans la préparation, on dit on n'a pas le droit à l'erreur, sauf que c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure façon de voir la chose, en tout cas pour ma part. Mais pour le coup, j'essaye de le voir d'une autre manière en me disant je serai la première franco-corse à participer à cet événement, la seule et l'unique. Et en fait, je le vois plus comme encore plus, parce que forcément les Jeux Olympiques, c'est un graal pour chaque sportif, mais encore plus pour, je pense, les karatékas. Et du coup, je me dis, je vais vivre quelque chose que les autres ne pourront peut-être jamais vivre.
Parmi les disciplines en compétition officielle, celle d'Alexandra Ferrace et le kata. Certains appellent cela la danse des combattants. Il s'agit d'enchaînements techniques, donc au cours desquels on simule attaque, défense, contre-attaque face à des adversaires imaginaires. Mais la notion de combat, elle est aussi bien réelle en dehors des épreuves à proprement parler. Comment être le plus performant possible au jeu quand on est un sportif amateur? Cette question, beaucoup la connaissent. Alexandra Ferrace, elle est détachée auprès de son employeur à présent pour s'entraîner autant que nécessaire, mais pour boucler le budget de sa saison, elle a eu recours quand même à une cagnotte en ligne partagée sur les réseaux sociaux.
J'avais jamais osé communiquer là-dessus. Pourtant, on m'avait dit de le faire, donc c'est pour ça qu'au début, je l'ai créé. Sauf que je me suis dit, non, j'ose pas. J'avais l'impression que ça faisait l'aumône. Et donc, du coup, ben, je restais un petit peu dans mon coin. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes en limite qui m'ont dit, Alex, t'es bête. Et les gens, au contraire, certains se feront un plaisir de t'aider.
Et effectivement, elle a même trouvé ainsi de nouveaux sponsors et elle peut aborder sereinement cette dernière ligne droite en vue de Tokyo. La liste des Français qualifiés en karaté sera officiellement dévoilée le 11 juin.
Laetitia Bernard, merci à vous. À demain, même heure. Et puis la mauvaise blague pour les nageuses du 100 mètres au championnat d'Europe de Budapest. Elles ont dû renager la finale. Signal du départ pas assez clair, semble-t-il. Victoire finalement confirmée pour la Britannique Kathleen Dawson.
C'était le journal de Marion Lourd. La météo.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Des conditions un peu meilleures que sur le reste du pays pour le bassin méditerranéen où les ondées matinales seront remplacées par un temps sec, mais tout de même assez voilé dans l'ensemble avec 20 à 24 degrés cet après-midi de la Côte d'Azur à la Corse. Sur le reste du pays, la moyenne des maximales sera de 16 degrés avec pour cette journée un défilé d'averses, un temps particulièrement instable dans la moitié nord du pays, devenant orageux en seconde partie de journée et accompagné d'un vent d'ouest désagréable. Dans la partie sud, de Rhône-Alpes au Jura et du Massif central au sud-ouest, c'est en cours d'après-midi que les averses seront plus fréquentes avec des coups de tonnerre en montagne et le maintien d'un risque d'avalanche marqué pour le massif alpin.
Jean-Michel Golinski de Météo France, merci.